Bienvenue dans Carnet de Noces, le podcast qui va à la rencontre des wedding planners afin de décrypter leur succès. On le sait, le parcours des wedding planners est souvent semé d'embûches. Ici, on se concentre avant tout sur les réussites, le positif, et on s'appuie sur les témoignages de wedding planners triés sur le volet qui ont accepté de nous partager leur savoir-faire. Notre mantra, tout wedding planner peut en apprendre d'une autre. Je suis Benjamin, le fondateur de Planners, la plateforme qui aide les wedding planners à développer leur activité. Hello, c'est Benjamin, ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Carnet de Noces avec notre invité qui est Manon, mon voisin de l'agence Manon Organisatrice de Souvenirs. Elle est wedding planner depuis 2018 dans la région du Nord, donc comme tu peux le constater, elle s'est lancée assez récemment. Elle va d'ailleurs nous expliquer comment elle a trouvé ses premiers clients, comment elle s'y est prise, comment elle organise également la décoration de ses mariages en allant chiner des objets vintage autour de chez elle qu'elle customise. Donc tu vas voir, ça va être super intéressant pour toi, pour te donner des idées de décoration en do-it-yourself, à moindre coût aussi, puisque tu verras qu'elle fait tout elle-même, et que donc ça lui permet aussi d'économiser sur le budget de ses mariés. Voilà, donc plein de choses aujourd'hui. Je te laisse écouter ma conversation avec Manon. Salut Manon, bienvenue sur le podcast Carnet de Noces. Mais du coup, je te laisse d'abord te présenter. Dis-nous qui tu es Manon, ce que tu fais, où tu fais et depuis combien de temps tu le fais.
Ok, donc bonjour à tous, moi c'est Manon, donc mon entreprise c'est Manon Organisatrice de Souvenirs. Donc je suis wedding planner dans les Hauts-de-France et plus précisément donc aux alentours de Saint-Quentin. Après, concrètement, je vais là où le vent me mène, où les amoureux m'appellent, en fait. Donc, je me déplace. Voilà, dernièrement, j'ai fait un mariage dans l'Oise, je vais dans le Nord, dans l'Aisne, dans la Somme. Enfin, voilà, je vais vraiment partout dans les Hauts-de-France. Et donc, du coup, moi, ça, je viens de fêter mes 3 ans donc, d'entreprise en avril. Et voilà.
Comment est-ce que tu t'es lancée? Qu'est-ce qui t'a fait prendre goût à l'organisation de mariage? Même si je l'ai lu sur ton site, mais...
Alors, pour la petite anecdote, en fait, ça a commencé vraiment par hasard parce que j'ai aidé mon frère à organiser un petit peu son mariage, à coordonner surtout le jour J. Et à l'époque, j'avais même coiffé ma belle-sœur, donc c'était plutôt rigolo. Et déjà, il y avait eu cette petite flamme qui s'était un petit peu allumée en moi, mais voilà, sans mettre le doigt dessus. Et puis, quelques mois, années après, j'ai eu aussi l'occasion d'organiser... pour le coup, l'enterrement de vie d'une fille et aussi, encore une fois, la coordination d'une connaissance, d'une amie. Et puis, ben, en fait, suite au mariage, cette amie en question m'avait dit « Mais Manon, pourquoi tu fais pas ça définitivement ?» Et puis, ben, cette flamme, elle s'est ravivée. Et puis, ben, j'ai entrepris du coup une formation de wedding planner en parallèle de mon ancien travail qui n'était pas du tout là-dedans. Et puis, ben, voilà, me voilà aujourd'hui, 3 ans après... à faire des mariages avec grand plaisir, du coup. C'est vraiment une révélation pour moi, une réelle reconversion qui a matché concrètement, parce que c'était complètement inattendu. C'était, voilà, enfin, c'était pas du tout dans mes projets. Et en fait, c'est vraiment voilà, une révélation, quoi.
Qu'est-ce que tu faisais avant d'être wedding planner?
Alors, je travaillais dans le commerce. Donc, j'ai travaillé vraiment dans beaucoup, beaucoup de secteurs. Donc, c'est l'avantage, c'est que du coup, la partie commerce, c'est vraiment une facilité pour moi parce que depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai toujours été dans le commerce. Mais avant, je travaillais vraiment dans mon dernier travail, je vendais des jouets, donc vraiment rien à voir. Mais voilà, je suis allée dans beaucoup, beaucoup de secteurs et ça, c'est l'avantage au niveau de la partie commerce. C'est vraiment, on va dire, la partie hyper facile pour moi. Après, je pense qu'aussi ma personnalité fait que ça, c'est facile parce que je suis assez avenante et voilà, on va dire que je suis très très sociable avec mes mariés, donc du coup, le contact est très facile dès le départ. Donc voilà, mais du coup, c'est encore une fois l'expérience du commerce qui parle aussi, quoi.
Qu'est-ce que tu as fait comme formation ?
Alors moi j'ai fait c'était une formation à distance parce que du coup je le faisais en parallèle de mon ancien travail et donc du coup c'était un master en organisation de mariage du coup.
Un master, d'accord. Ça se fait, c'était quoi, enfin ça se fait dans un organisme
ouais c'était un ouais,
parce
c'était
que master un... généralement c'est réservé aux facultés ou enfin, ouais, aux universités.
Je me trompe, après, c'est peut-être... Enfin, je pourrais te donner exactement le terme. Mais si, après, c'est l'entreprise, enfin, si ça peut intéresser certaines personnes d'ailleurs, j'ai regardé récemment, elle le fait toujours, s'il y a de nouvelles wedding planners qui veulent se lancer là-dedans sans forcément entreprendre une formation en présentiel, c'est Event et Media qui propose ça.
D'accord. Ils sont basés où ? Ils sont basés dans le Nord aussi ?
Non, je crois que c'est sur Paris. Je crois que c'est sur Paris. Et moi, du coup, moi, c'était vraiment le côté pratique parce que moi, j'attendais d'avoir terminé la formation pour savoir si je me lançais ou pas, parce que c'est vrai que je voulais quand même connaître toutes les ficelles quand même du mariage, parce que c'est vrai que c'est... quand on y assiste, c'est une chose, mais quand on l'organise et quand on coordonne, c'est encore différent. Et puis, une fois que j'ai fini la formation et que j'ai eu le diplôme, c'était parti, quoi.
Tu t'es lancé dans le grand bain direct, alors ?
Oui, en fait,
concrètement... Même pas fait de stage, parce que c'est vrai que dans les formations, généralement, il y a des stages associés, mais toi, tu t'es lancé directement dans le grand bain.
Je suis rentrée dans le bain direct. J'ai déposé ma rupture conventionnelle le 23 décembre et le dernier jour de février, j'ai terminé mon ancien travail. Et le 1er mars, j'étais déjà sur les chapeaux de roue en tant que wedding planner, donc même page Facebook créée. Enfin, voilà, après, c'est un travail de longue haleine au début parce que forcément, on se bat avec rien. On n'a pas de photos, on n'a vraiment pas de contenu ni de photos, en fin de compte, pour me présenter aux mariés ou aux professionnels, pour montrer sa bonne foi et dire, je suis motivée, je suis quelqu'un de professionnel malgré que je sois au commencement, quoi. Donc très vite, j'ai fait forcément, comme beaucoup de wedding planners, je pense, un shooting d'inspiration, donc pour avoir un petit peu de contenu. Et puis, très très rapidement après ma création, j'ai eu ma première signature de contrat, donc c'était cool. Alors après, il y a aussi des refus. On se remet en question et on réfléchit.
Bon. On va pas aller trop vite.
Ouais,
on va pas aller trop vite puisque c'est vrai que, et c'est ce que je te disais avant d'enregistrer, on a eu, une quinzaine de wedding planners là jusqu'à maintenant. Enfin, on est quoi ? Non, on en sera au 16e épisode, donc ouais, une quinzaine. Et c'est vrai que majoritairement, depuis le début, on a des wedding planners qui ont commencé parfois il y a plus d'une dizaine d'années. Donc, sachant qu'on est dans un secteur qui évolue vite, qui est somme toute assez, assez récent. Ce qu'on faisait il y a 10 ans pour trouver des clients, c'est pas forcément ce qu'on fait là, et puis c'était aussi peut-être un petit peu moins concurrentiel, donc c'est compliqué et c'est parfois assez compliqué pour les wedding planners de se projeter à ce moment-là et de se rappeler vraiment des différentes galères qu'ils ont eues au moment de leur lancement. Toi, ça reste assez récent, t'es quelque part t'es une wedding planner de la nouvelle génération, entre guillemets, je pourrais dire. Donc tu m'as parlé de shooting d'inspiration et t'es pas la première à nous en parler, mais c'est vrai que c'est pas forcément naturel, j'ai l'impression que tout le monde n'en fait pas, mais c'est vrai que c'est la grosse recommandation, j'imagine, quand tu veux te lancer, que t'as pas de contenu, faut en créer toi-même. Voilà, faut faire un book, il faut créer ton propre contenu, à moins d'aller chercher des photos et des vidéos d'autres personnes, mais ça, c'est pas très recommandé. Enfin, c'est pas ce qu'on ira recommander sur le podcast, en tout cas.
Pour le SEO, c'est pas bon, quoi. Enfin, c'est bien d'en utiliser pour avoir de jolis contenus, mais les photos et les vidéos libres de droit, ça n'apporte pas grand-chose concrètement, ça montre pas son travail. Donc, c'est vrai que le shooting d'inspiration, moi, ça me semblait évident, en fait, pour pouvoir déjà montrer un petit peu ma patte. Dès le premier shooting, moi, par exemple, j'ai fait intervenir plusieurs couples, enfin, plusieurs faux couples, du coup. Et en l'occurrence, à l'époque, je sais que d'emblée, j'avais fait un couple homosexuel de deux femmes, du coup, pour montrer, comme j'ai démarré, montrer que j'avais absolument rien contre les couples, les amoureux homosexuels, on va dire. Et donc du coup j'avais vraiment mis en scène du coup deux femmes et en plus c'était génial ce shooting parce qu'elles étaient hyper complices et on voyait pas du tout que c'était pas un vrai couple, donc c'était vraiment chouette. Et puis moi je pense que c'est indispensable de faire des shootings parce que ne serait-ce que pour la déco, d'avoir du contenu, c'est des choses qu'après on peut ressortir même des années plus tard parce que en fonction de certains posts, parce que c'est vrai que moi à côté de ça je tiens un blog, il y a des photos que j'ai pas utilisées à l'époque que j'utilise aujourd'hui parce que ça correspond à ce dont je parle dans mon article par exemple.
Donc c'est vraiment pas comment tu t'y es pris pour organiser ton shooting. Est-ce que tu avais été formé là-dessus ou ça n'a pas été trop compliqué?
Non. En fait, concrètement, dès le départ, on va dire les premières semaines, comme forcément je pars de zéro, j'ai commencé déjà juste à partager ma page, à dire aux gens, partagez ma page, mettez des likes, tout ça, faites en sorte que je me fasse connaître. Et très rapidement après, j'ai fait une sorte de casting où je demandais aux gens de participer. Donc déjà, il y avait ce côté un peu nouveauté. Les gens, ils aiment bien participer à des castings pour faire des shootings. En plus, il y a le côté, on part avec des belles photos. Et donc, du coup, j'avais eu beaucoup, beaucoup de candidatures pour ce shooting-là. Et le fait du nombre de partages qui avaient été faits, la page, en fait, elle a rapidement récolté beaucoup, beaucoup de likes. Et j'ai eu beaucoup de demandes après sur Facebook parce qu'il y avait l'effet nouveauté, une nouvelle wedding planner dans le secteur. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de demandes grâce à ça.
Tu veux dire que tu as eu des demandes grâce à ton poste qui demandait des candidatures pour ton shooting. Voilà. Ouais. Ah oui, donc ça en fait, c'est l'effet indirect et l'effet waouh, puisque d'un côté, tu te rends visible pour aller recruter des gens, et de l'autre, ça permet à d'autres personnes de voir que tu t'es lancé et que tu existes.
C'est ça. Donc c'était vraiment un peu l'effet boule de neige inattendu, mais appréciable du coup, parce que c'était pas du tout l'effet escompté, quoi. Le but c'était vraiment de recruter des modèles, et puis j'ai eu des demandes, puis après j'ai des professionnels qui m'ont contacté pour me montrer leur travail. Enfin, vraiment, c'est vraiment dès le démarrage, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Après, j'ai du coup profité du réseau de mes amis et puis des amis, quoi. Donc du coup, ça a vite démarrer. L'avantage, c'est que d'avoir fait ça aussi, c'est que comme je véhiculais le fait que je veux travailler que dans le Lot, dans les Hauts-de-France, l'avantage, c'est que tout de suite, j'ai eu des contacts locaux, et comme moi, je véhicule le fait que je veux travailler essentiellement en local, l'avantage, c'est que du coup, j'ai eu des mariés vraiment dans le secteur, quoi. Donc, l'occurrence, ce shooting, c'est ce qui m'a fait débloquer le premier mariage, en fait. Parce que du coup, on a partagé le casting, et du coup, j'ai eu des mariés qui étaient un petit peu plus excentrés dans l'Aisne, et du coup, j'ai eu ma première signature, quoi. Donc du coup, c'est vrai que c'était inattendu, mais c'était une belle expérience. C'était vraiment difficile au début, parce que en plus sur le secteur, il y a quand même d'autres wedding planners, donc il faut se démarquer, donc c'est pas évident. Et moi, c'est pareil, j'ai pas voulu mettre d'étiquette tout de suite parce que moi-même, je ne savais pas comment, on va dire, me valoriser, comment dire quelle est ma valeur ajoutée, qu'est-ce que je vous apporte comparé à mes concurrentes. Donc voilà, et là, aujourd'hui, oui, je peux le dire, je sais un peu plus où je vais et ce que je revendique par rapport à mes organisations et à ma décoration. Donc c'est vrai que je pense que de toute façon, quand on est wedding planner, je pense que c'est un travail de longue haleine et qu'on se remet beaucoup en question, ne serait-ce que pour son organisation personnelle au niveau de son travail et pour ses mariages, en fait. Enfin, c'est vraiment régulier, c'est vraiment on se remet en question. Si on a un refus, au début, moi, c'était plutôt ça, je me remettais moins en question en disant qu'est-ce que j'ai raté, machin. Et non, aujourd'hui, c'est vraiment plus, c'est que c'était pas, des wedding planners, il y en a pour tout le monde, je peux pas plaire à tout le monde, mais c'est difficile au début d'accepter ça, que on puisse pas être la wedding planner de tout le monde, et c'est pas possible, en fait. Sinon, ça revient à dire, on plaît à des mariés avec qui ça va pas passer, parce que le feeling passe pas, et sous prétexte que, on veut leur plaire, Au début, moi, c'était comme ça. C'était vraiment, en fait, j'essayais de me plier un petit peu à ce qu'ils attendaient de moi. Alors qu'aujourd'hui, je suis vraiment dans un état d'esprit où quand j'arrive en rendez-vous avec mes mariés, je suis comme ça. Ça passe, c'est bien. Ça passe pas, vous verrez quelqu'un d'autre. Mais moi, je ne veux pas faire semblant. On va rester, parfois une heure, un an ou deux ans à organiser leur mariage. Il n'est pas question que je fasse semblant d'être quelqu'un d'autre, pour que derrière, ils soient déçus en disant « mince, c'est pas du tout la même personne qu'on a rencontrée au premier rendez-vous. » On se sent plus du tout à l'aise, alors qu'au début, elle a fait en sorte de nous plaire. Donc voilà, c'est vraiment, j'y vais avec ma bonne humeur, mon sourire, et ma joie de vivre. Et vraiment, enfin voilà, c'est, alors après, ça te plaît ou ça te plaît pas, parce que je sais qu'il y a des mariés qui aiment plus les wedding planners vraiment très très pas scolaire, j'aime pas dire ça, mais vraiment très protocolaire, où vraiment voilà, il y a le cadre, le fait que il y a plus cette hiérarchie, on va dire, entre les mariés et la wedding planner. Moi, je me vends plus comme quelqu'un de voilà, je dis bien mes mariés, voyez-moi vraiment comme si j'étais une témoin ou quelqu'un proche de vous, parce que moi, l'idée, c'est que vous soyez hyper à l'aise avec moi, que quand ça va, faut me le dire, parce que du coup, ça veut dire qu'on va dans la bonne direction et que du coup, l'organisation va bien se dérouler. Par contre, voilà, je suis un humain, je peux faire des erreurs au niveau de la déco ou d'autres choses, qu'ils n'hésitent pas à me le dire, quoi, concrètement, et jusqu'à maintenant, ça va, du coup. Donc, voilà, le tout, moi, je pense que c'est d'être naturel, que ce soit eux ou moi, de rester vraiment soi-même. Et ça je le revendique à ça avec mes mariés, n'hésitez pas à me dire stop ou à me dire c'est bien quand ça va ou quand ça va pas, quoi. C'est super important, parce que le but, c'est que, enfin voilà, mon but ultime, c'est que leur mariage leur plaise et pas qu'ils soient déçus derrière, quoi.
Bon, il y a beaucoup de choses là dans tout ce que tu nous as dit. Ouais. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur la partie shooting d'inspiration. Il y a quelque chose qui m'a un peu fait réagir, c'est le fait que tu allais chercher toi-même des candidats, donc tu allais chercher, entre guillemets, des acteurs amateurs, quelque part. Oui. Et je ne sais pas si c'est une pratique assez courante, puisque moi, j'aurais plutôt tendance à croire que quand on veut faire un shooting d'inspiration, on va aller chercher des agences avec des modèles, ou peut-être aller chercher des prestataires qui sont spécialisés là-dedans et qui ont déjà à disposition des acteurs qui sont pris pour faire le job. Alors je suis peut-être complètement à côté de la plaque, puisque j'en ai jamais organisé moi-même, mais moi, j'aimerais bien avoir un peu plus d'infos à ce niveau-là, et surtout dans la, même peut-être en termes de budget, puisque peut-être qu'on fait ça pour des notions de coût, peut-être que c'est moins cher de faire appel à des amateurs, je sais pas. Voilà, j'ai plusieurs questions par rapport au shooting d'inspiration de manière plus concrète, donc j'aimerais bien que tu nous...
Je rentre dans le détail.
Voilà, tu rentres un petit peu là-dedans.
Alors, de toute manière, dans tous mes shootings, quoi qu'il arrive, on reste vraiment sur un partenariat. Donc, vraiment, tout le monde vient avec ses biens ou services pour en faire bénéficier pour le shooting.
Et, oui, ça, c'est ce que j'avais compris pour les partenaires, pour les photographes, etc. C'est un échange de bons procédés. Eux sont de la visibilité.
Pour les modèles aussi, en fait. Pour les modèles aussi. Pas amateurs ou moins amateurs, parce que j'ai eu quand même des misses qui ont participé, donc du coup on n'est pas sur des modèles pro, mais des personnes qui ont quand même plus l'habitude d'être shootées, en tout cas. Et on était vraiment sur un échange de bons procédés, vous participez, vous récupériez les photos, si elles voulaient en profiter pour leur book, il n'y avait aucun souci, on avait tous signé une autorisation de droit à l'image, elles pouvaient tout à fait les utiliser, comme moi je pouvais les utiliser pour mon entreprise, en fait. Et donc du coup, je pense que ça, c'est une des réponses que tu veux entendre, je pense, par rapport au fait que mon choix de choisir des amateurs, l'idée surtout, c'était de pouvoir permettre à un couple lambda, entre guillemets, de futurs mariés, de se reconnaître plus dans des personnes, justement, monsieur, madame, tout le monde, en fait, concrètement, parce que d'avoir des modèles... Alors attention, hein, je dis pas que monsieur, madame, tout le monde n'est pas beau, n'est pas magnifique, mais c'est vrai que du coup, d'avoir des modèles qui ont l'habitude, ça se voit forcément. On est sur des critères physiques, du coup, très fermés, on va dire, on est sur des modèles voilà, mannequins, que là, moi, l'idée, c'était pas forcément d'avoir justement des modèles où les futurs mariés ne pourraient pas s'identifier. En fait, moi, l'idée, c'était vraiment que les gens se disent « Ah ouais, il y a même une dame âgée. Ah ouais, il y a même une dame... Enfin, » voilà, vraiment, l'idée, c'était qu'on épluche vraiment tous les âges, toutes les morphologies, et en fait, toutes les... Enfin, vraiment, c'était hyper ouvert, en fait, ce casting, parce que j'avais pas de... Il n'y avait pas de restriction, que ce soit physique ou au niveau de l'âge, parce que moi, l'idée, c'était vraiment que tout le monde puisse s'identifier à ça, parce qu'après tout, tout le monde peut se marier. Donc du coup, moi, j'avais pas de vraiment aucune restriction là-dessus, donc ça a été plus compliqué après quand même pour faire le choix au niveau des modèles, parce qu'il fallait quand même que ça matche au niveau des photos et des faux couples, parce que forcément les gens ne se connaissaient pas. Mais ouais, moi, l'idée, c'était vraiment de faire ça, voilà, du coup, de faire des shootings où en l'occurrence, le premier, ça a été ça, parce que là, du coup, c'est vrai que j'envisage aussi un peu différemment mes futurs shootings. J'en ai un qui est en cours, enfin qui est en préparation, on va dire. Et là, c'est vraiment pour le coup un couple de modèles qui ont l'habitude et que voilà, qui là, on va y aller. J'ai presque pas besoin de leur dire quoi faire. Ça va couler de source. Mais là, on va dire, ce shooting-là, il y avait quand même beaucoup, beaucoup plus de travail parce que les modèles, du coup, étaient des amateurs, donc ils ne savaient pas du tout quoi faire, comment poser. C'était vraiment... c'était un travail... Au-delà d'un travail en amont, c'était un travail aussi le jour J parce qu'il fallait aussi les coacher, quoi.
Et ça a pris combien de temps à l'organiser, celui-ci ?
Le shooting, il a été fait en avril. Donc, moi, je l'avais fait quand même relativement rapidement. Parce que quand j'ai commencé en mars, le mois d'après, c'était le shooting, quoi.
D'accord. Oui, donc un gros mois quand même.
Ouais.
Et donc, tu as dit que tu avais déjà trouvé ton premier couple grâce à ce shooting, pardon. Ouais. Après, c'est quoi ? C'est un effet boule de neige qui est parti. Est-ce que tu as travaillé spécialement sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu as développé un canal plutôt qu'un autre ? Comment après ça s'est passé pour aller trouver tes autres premiers clients ?
Alors moi déjà j'ai la chance d'avoir mon conjoint qui a créé des sites internet, donc du coup très rapidement j'ai eu mon site qui a été en ligne dans la première année en fait, donc du coup ça il y a eu aussi ce site là qui n'était pas négligeable au niveau de la visibilité, parce qu'une page Facebook c'est bien, mais après dans le flux de Google ça n'apparaît pas forcément en premier, sachant que le blog moi je l'ai fait longtemps après à me décider, parce que pour moi au début je ne voyais pas l'utilité, et pourtant aujourd'hui je regrette de ne pas l'avoir fait avant, parce que c'est vrai que ça me ramène énormément de visibilité et de visites sur le site, donc au moins voilà de faire de la pub. Et après voilà tous les sites mariage.net, ZenQ, après Planners forcément. Donc mais voilà, je pense que je suis un petit peu sur tous les répertoires de Wedding Planner, mais je centralise vraiment beaucoup mon travail sur Facebook et Instagram. Après voilà, quand l'époque nous le permettait, je faisais des salons du mariage forcément, et ça c'est vrai que le salon du mariage pour moi ça a été plutôt bénéfique pour la visibilité, puis pour me lancer concrètement. Mais la première année, ce qui a été... Parce que du coup, j'ai quand même commencé... Enfin, la saison des mariages, pour ainsi dire, elle était déjà commencée. Donc, j'avais quand même peu d'espoir pour la première année. Et au final, j'ai eu justement, grâce à ce shooting-là, par la suite, un contact avec un photographe qui a souhaité me rencontrer pour savoir un petit peu comment je travaillais. Donc, on avait quand même bien discuté. Et puis, deux semaines après, il me disait, écoute, j'ai des mariés qui sont en galère pour leur déco, est-ce que t'es OP ? J'ai dit, oui, bien sûr que je suis OP. Et donc, du coup, il m'a dit ça en juin, et le mariage était en août. Donc, ça a été relativement rapide aussi, et puis au final, c'était génial, quoi. Enfin, c'était, dans l'urgence quand même, parce que du coup, c'était à la dernière minute de tout faire, de faire un travail qui, normalement, se fait en quand même plusieurs mois. Mais voilà, non, c'était cool.
D'accord, donc après ça s'est bien enchaîné. Pour le blog, tu m'as dit que tu l'as fait que tardivement, un petit peu après tout le reste.
Ouais. Ouais, te dire exactement quand mon premier article est sorti, mais alors attends. Je vais te dire ça. Mais je pense pas que ce soit si. En fait, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus tard après, mais je pense pas en fait. Mais ouais, après, j'essaie de quand même de garder une certaine rigueur. Alors, je ne poste pas non plus toutes les semaines, parce que après, voilà, j'ai aussi les organisations à prévoir et tout ça. Mais le premier article, il est sorti... en mai 2018, quand même, du coup. Si, quand même, du coup.
Mais c'est surtout la mémoire, on se
rappelle. Ouais, non, mais c'est ça. Je pensais que c'était beaucoup plus tard. Mais si, par contre, au début, j'avais pas beaucoup. Je sortais pas d'articles régulièrement. Par exemple, le suivant, il était en juillet. Il y a eu un deuxième en juillet. Après, c'était août, octobre, décembre. Et après, voilà, quand je me suis rendu compte que, effectivement, ça, c'était quand même très, très utile, je postais plus régulièrement, quoi. Au moins une fois par mois, quoi. Là, je suis sur un rythme de... Là, ça fait un petit moment que je n'ai pas posté. Là, la dernière fois, c'est avril. Ouais. Avril, donc là, j'en ai pas posté en mai.
Et donc, tu voilà. t'y prends comment? Est-ce que tu choisis tes thèmes d'articles par rapport à des mots-clés en référencement naturel, par exemple? Est-ce qu'il y a un travail en amont là-dessus ou tu prends un thème sur lequel tu as envie d'écrire et puis tu y vas?
Moi, c'est plutôt ça. C'est plutôt, j'écris sur un thème, une problématique et j'écris là-dessus. C'est vraiment plus en fonction de mes envies plutôt que... Je réfléchis pas à savoir si ça va... plaire ou si ça va faire des vues. Moi, c'est plutôt l'idée que voilà, on va dire mes lecteurs, ils trouvent des informations qui les intéressent, de répondre à des fois des attentes ou des questionnements. Et c'est vrai que je parle de tout et de rien. Alors j'ai forcément des articles un peu plus qui font le buzz, on va dire, où vraiment j'ai des titres un peu accrocheurs. Mais il y a beaucoup d'articles techniques où je parle par exemple de la quantité des cornets, des choses comme ça. Après, je parle aussi d'inspiration. Enfin, je parle vraiment. J'épluche vraiment pas mal de thèmes et de sujets. J'ai pas de restrictions au niveau de ce dont je peux parler sur mon blog. Après, l'idée, c'est vraiment que mes lecteurs vraiment, ils trouvent des informations. Voilà, qui repartent avec une information qu'ils n'avaient pas en tête ou peut-être parce qu'après je fais parfois intervenir aussi des prestataires aussi de dire bah pourquoi pas après avoir une confirmation sur un prestataire qu'ils ont engagé parce qu'après voilà c'est plein de petits détails comme ça que j'aime bien ajouter et moi aussi après là enfin c'est aussi ça que je me suis mis en objectif sur mes to-do. J'aimerais bien revenir aussi sur les mariages que j'ai faits et vraiment aller dans le détail, expliquer un petit peu comment moi j'ai visualisé la chose pour vraiment présenter encore mieux mon travail au final, parce que c'est vrai que quand on est en rendez-vous, c'est bien, je le présente et je sais le vendre, ça c'est sûr. Mais peut-être que si un couple de mariés sur mon site internet, ben, ils aiment bien ma personnalité, mais il manque le petit truc, peut-être que ça va être ça, l'élément déclencheur, de dire « Ah d'accord, elle procède comme ça, bah ok, bah, c'est bon, on valide, on prend un rendez-vous. »
Ouais, c'est aussi pour faire prendre conscience aux gens du métier de wedding planner. C'est vrai que j'ai pas l'impression que des articles très très techniques, il y en a beaucoup sur internet. C'est vrai que généralement on cherche à inspirer, on cherche à montrer son travail et plus peut-être plus de manière visuelle, mais c'est vrai que l'expliquer de A à Z comment on va procéder, qu'est-ce qu'on va faire, à quel moment, etc., etc. Peut-être que ça va aussi permettre aux gens de mieux se rendre compte de la mission de wedding planner et je pense que ça pourrait très très bien marcher, ouais, effectivement. Alors après, c'est peut-être des articles qui sont un peu plus longs à faire et qui demandent un peu plus de
travail, de boulot, recherche, ouais, c'est ça. Ouais. Après, l'idée, c'est quand même que ces articles-là, que je donne des infos, mais pas trop non plus, parce que le but, c'est pas de vendre ma prestation, enfin, de proposer des articles où ils n'ont plus besoin de moi. En fait, concrètement, je leur donne des détails, mais... ça n'enlève pas le besoin d'avoir à faire appel à mes services, en fait, concrètement. Donc, après, comme mes articles sont quand même vus par beaucoup, beaucoup de monde, c'est pas forcément mes clients, au final, qui lisent mes articles techniques, au final. Moi mes articles... en fait, c'est surtout au niveau des inspirations. Par exemple, aussi, je pense, par exemple, en l'occurrence, j'ai un article qu'on peut retrouver régulièrement sur Internet, par exemple, sur les rituels de cérémonie laïque. Voilà, ça n'engage pas... le fait d'avoir donné des idées de rituels de cérémonie laïque n'enlève pas le fait qu'ils aient besoin de moi au niveau de la cérémonie laïque, par exemple. Donc, du coup, c'est des idées... Mais sans rentrer dans le détail, ça n'enlève rien à l'écriture de la cérémonie laïque, de l'organisation, de la recherche de déco, ça n'enlève rien à ça. Par contre, si effectivement on rentre sur des détails, des termes techniques, ou vraiment où ça fait partie de mon travail, là du coup on n'a plus besoin de mes services. Donc c'est un juste milieu entre le conseil leur donner l'envie de me contacter, en fait, concrètement. Enfin, c'est de dire, bah voilà, oui, c'est bien, on nous donne des idées, mais on a envie d'en savoir plus, donc du coup, on va appeler Manon, quoi.
Parce voilà. Que tu penses que les gens, s'ils savaient exactement comment tu faisais, ils ne feraient pas appel à toi?
Non, je ne pense pas, parce que moi, j'aime à croire que les gens m'engagent, surtout pour ma personnalité, et ça, je sais qu'aujourd'hui, quand je rencontre mes mariés, c'est vraiment quelque chose que je leur dis presque dès le départ, que voilà, le but, c'est qu'ils soient à l'aise avec moi, et je les mets à l'aise d'emblée, parce que c'est vrai que, enfin, moi, j'essaie de les mettre à l'aise, en tout cas, et... Et c'est, enfin, pour moi, c'est quand même super important. Et je pense qu'aujourd'hui, que 70%, 80% de mes devis sont signés pour moi. Parce qu'après, au final, l'organisation derrière, n'importe quel wedding planner va le faire. Mais après, c'est aussi avec qui on s'engage. Parce que voilà, c'est qui va contacter les prestataires, qui va coordonner, qui va parler avec nos témoins et organiser les, enfin, et orchestrer les animations pendant la soirée. Enfin, c'est tout un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en compte. Et je pense que si d'emblée, ils sont pas à l'aise avec moi, enfin, avec n'importe quel wedding planner, dans tous les cas, s'ils sont pas à l'aise avec leur wedding planner, enfin, derrière, il va y avoir des couacs, en fait, forcément, parce que, enfin, je me dis que si on n'est pas à l'aise avec la personne qui va organiser normalement le plus beau jour de leur vie, c'est quand même délicat. Donc, moi, je pense que c'est super important de vraiment, en fait, un petit peu comme l'achat d'une maison, il faut qu'il y ait le coup de cœur un peu pour la personnalité de la personne, parce que il faut pouvoir se sentir libéré et de dire, voilà, moi, j'ai des messages de mes maris régulièrement qui me parlent d'autre chose que de leur mariage. Et ça me fait plaisir parce que je me dis, bah voilà, au moins, je sais aussi comment ça se passe derrière dans leur vie de couple ou de famille. Et je sais aussi comment, moi, les aborder et à quel moment aussi par rapport à leur planning pour l'organisation. C'est vrai que c'est, moi, je pense que c'est important de connaître s'est marié et à l'inverse que eux connaissent aussi moi ma personnalité et ma vie à côté entre guillemets. Alors attention hein, je parle pas dans le détail mais voilà je suis hyper transparente là-dessus et je pense qu'ils le sont aussi et ça marche bien comme ça en fait.
Donc, ouais c'est vrai que je t'ai posé la question parce que tu me disais c'est vrai que t'as pas envie de donner trop de détails dans tes articles pour juste susciter l'intérêt et faire en sorte que les gens derrière prennent contact avec toi. C'est vrai que moi j'ai un avis un peu moins tranché là-dessus, puisque c'est vrai que je pense que tu peux tout donner, en fait, hein, dans tes articles, peu importe ce que tu dis, puisque je pense que les gens qui vont faire appel à un wedding planner, ce sont des gens qui, dans tous les cas, n'auraient jamais fait eux-mêmes. Et c'est vrai que d'écrire comme ça, peut-être des contenus hyper poussés, ça va juste prouver ton expertise, asseoir ton expertise et ton statut. Et puis, ça peut aussi, peut-être, pourquoi pas, générer des liens depuis d'autres sites avec des gens qui vont citer ton article, etc. Ça va aussi le pousser sur les pages de résultats Google. Donc au final, moi, j'y vois que des bénéfices. Et puis, parce que généralement, les gens qui veulent faire ça eux-mêmes et puis prendre ton article en tant que checklist hein, pour le propre mariage, dans tous les cas, c'est des gens qui n'auraient jamais fait appel à un wedding planner. Donc, bon, ces gens-là, dans tous les cas, tu ne t'adresses pas à eux. Voilà, donc toi, des clients, c'est, dans tous les cas, c'est des gens qui ont peut-être besoin d'être rassurés sur le fait que tu sais ce dont tu parles, que tu connais ton métier et ces articles-là. C'est pour ça que je te disais qu'à mon sens, il ne faut pas hésiter à tout donner, même dans des articles ou dans des vidéos ou dans des tutos, puisque quelque part, les gens qui vont prendre toute ton information et l'utiliser, c'est des gens qui ne seraient jamais venus vers toi en premier lieu. Donc, il faut aussi avoir, je pense, cette mentalité-là. Et s'il y a un conseil qu'on peut donner, c'est quand on écrit des articles, c'est pas ne pas se dire que l'information va pouvoir être réutilisée, puisqu'encore une fois, je ne pense pas que ce soit ta cible. Qui va tout prendre pour argent comptant et utiliser ton article. Mais je comprends tout à fait qu'on puisse avoir hein, cet état d'esprit-là, ou même par rapport à leur concurrence, quoi, hein, de se dire « j'ai pas envie que telle ou telle personne sache comment je travaille, quels sont mes tarifs, etc. » Mais il y a quand même beaucoup de bénéfices à être transparent et à être hyper, hyper exhaustif dans les informations qu'on donne.
Bah après, quand je fais un article, je me donne à 100%. C'est plus pour te visualiser un peu le truc. C'est que, par exemple, là, j'ai commencé à faire des réels sur Instagram. Bon, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer, mais là, ça y est. Et en l'occurrence, j'ai fait des réels de décoration. Et moi, l'idée, c'est ma vision des choses, c'est de pas montrer le processus. Donc, je montre les étapes, mais je montre pas avec quoi, avec comment je le fais. Le but, c'est de montrer, en l'occurrence, je pense qu'on va en parler après, je fais beaucoup d'upcycling, par exemple. Je vais montrer mon produit de départ, je vais montrer peut-être la phase au milieu, et je montre le produit fini. Mais le but, si je donne toutes les étapes, quel intérêt après on m'est marié du coup à m'engager si je leur donne toutes les ficelles pour le faire. Du coup, c'est plus ça l'idée en fait, c'est vraiment de dire oui, on peut faire telle ou telle chose, je monte des idées, des inspirations. Par exemple, je travaille beaucoup avec le bois de palette. je monte le produit fini. Alors, c'est pas forcément sorcier, mais il faut prendre le temps de le faire, il faut avoir le matériel pour. Et tout ça, je le cache pas, mais voilà, il faut, et puis il faut avoir le temps aussi. Enfin, c'est ça aussi. Après, des fois, il y a des wedding planners qui sont engagés juste parce que les mariés n'ont pas le temps de faire tout ça, en fait. Mmh. Donc, enfin voilà, tout ça, je le relate beaucoup dans mes articles quand même pour dire que, pour, on va dire, démocratiser le fait qu'une wedding planner, on la paye, mais au final, pour pas grand-chose. Une fois, j'ai eu une maman de mariée qui est venue discuter avec moi au salon du mariage et qui m'a demandé concrètement de parler de mon métier, à quoi ça servait, donc je lui explique. Elle m'a dit, mais en gros, on peut le faire nous-mêmes. Et j'ai dit, mais j'ai jamais prétendu que vous ne pouviez pas faire le mariage de votre fille. Juste aujourd'hui, le métier de wedding planner, c'est un confort pour les couples, pour ceux qui n'ont pas le temps, enfin qui n'ont pas les idées, c'est une option en fin de compte, les wedding planners. Moi, je j'aime pas dire ça, mais c'est vrai que depuis la nuit des temps, les mariages sont organisés par les parents, et je pense qu'il y en, ben, y a beaucoup qui se font encore aujourd'hui par les parents. Mais c'est vrai que il y a aujourd'hui beaucoup de couples qui veulent en faire un événement à part entière, qui veulent que ce soit vraiment la fête de l'année, entre guillemets. Donc du coup, ça demande beaucoup de temps de réflexion et de recherche, et tout ça, ils n'ont pas forcément le temps. Donc, et après, on est toujours là, encore une fois, pour les accompagner, d'écouter un petit peu leurs envies, leurs projets, et de les faire sortir un petit peu de leur zone de confort, de leur dire, bah oui, osez, parce que vous allez, bah, j'espère, vous marier qu'une seule fois, et que bah, ce ne sera pas quand le mariage sera passé qu'on se dit, bah non, on aurait dû faire ça. Non, on dit tout ce qu'on aimerait faire, et après, on ose, parce que du coup, on sera d'autant plus content que le mariage ressemble à ce dont on attendait, en fait. Enfin, c'est vraiment, l'idée, c'est d'avoir le mariage qu'on rêve, en fait, pas de se mettre des retenues parce que la famille, enfin voilà, c'est vrai que c'est pas évident de plaire à tout le monde, mais je dis, il faut surtout qu'il plaise à vous, en fait, le mariage. C'est vous qui vous mariez, donc que ce soit ce qu'il y a dans l'assiette, l'ambiance ou la décoration, c'est surtout à vous qu'elle doit plaire, la déco. Donc c'est vrai que là-dessus, on va dire, il y a un gros travail au début avec mes mariés où je leur fais parler d'eux et de leurs projets pour savoir vraiment en détail ce qu'ils aimeraient, parce que au-delà de leur mariage de rêve, et après il y a aussi voir si c'est possible en fonction de leur budget, parce qu'il y en a qui vont me dire, bah moi, sans parler du budget, il y aurait château, feu d'artifice, grosse voiture, et puis le budget ne suit pas, donc après il faut composer avec ça et répondre à leurs attentes en respectant leur budget. Donc du coup, c'est tout plein d'éléments comme ça qui fait que le projet est réalisable, en fait.
Tu m'as parlé de décoration, parce que c'est vrai que j'ai cru comprendre que c'était l'une de tes spécialités. Tu m'as parlé d'un mot, upcycling,
c'est ça ? Ouais.
Upcycling. Donc, si je comprends bien, c'est tu prends un objet et tu détournes son utilisation pour en faire autre chose.
C'est ça. En gros, c'est redonner une seconde vie, une toute autre vie à un objet complètement quelconque, on va dire. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre une palette et je vais faire un panneau directionnel, je vais faire des centres de table, enfin, ça peut être plein de choses. On va dire que là-dessus, je suis assez bricoleuse et créative, donc ça, pour ça, c'est un avantage pour mes mariés. Et du coup, entre guillemets, à moindre coût, parce que forcément, c'est moi qui mets la main à la pâte, donc du coup, je vais avoir les idées, je vais avoir le matériel, je suis équipée, tout ça, donc c'est vrai que le fait d'avoir tout sur place, c'est un avantage pour eux aussi. Et puis j'adore chiner, en fait, vraiment, j'adore me promener dans les Emmaüs, enfin les choses comme ça, et je suis à la recherche toujours de l'objet, on va dire, un peu insolite et qui va compléter la décoration de mes mariés, quoi. Donc là, j'ai trouvé un centre de table à mes mariés, un couple de mariés en juillet, justement dans un Emmaüs, et bien on est ravis parce que du coup, ça l'a à moindre frais. C'est un objet qui a déjà vécu, qui du coup est beau, qui est vieux, qui est... Enfin voilà, c'est vintage, mais...
Et c'est quoi comme objet?
Alors, je
sais pas... Utilisé, là, mais...
Et voilà, je vais pas trop faire de spoiler, parce que c'est vrai que, bon, c'est pas non plus un objet très insolite, mais voilà, c'est un objet sur le thème du mariage, donc je peux pas trop non plus en dire, mais voilà, c'est des choses que... Il faut... Après, voilà, c'est au petit bonheur la chance, forcément, il faut y aller plusieurs fois, des fois, il n'y a pas toujours en fonction des arrivages... ce que l'on recherche, mais
c'est vrai que voilà, ça d'objets un petit peu insolites que tu as détournés ou des des petits exemples comme ça de décorations qui ont bien fonctionné auprès de tes mariés ou ouais, des choses un peu insolites. Est-ce que tu as des choses qui te viennent en tête?
Des choses qui me viennent en tête, non. Après, c'est plus de la création aussi, après, pure et dure. Insolite, non, pas forcément. Alors, ce centre de table-là, c'est pas insolite, mais du coup, comme c'est le thème du mariage, je peux pas vraiment en parler. Mais voilà, après, l'idée, moi, que j'apporte à mes mariés, c'est surtout de. Quand on travaille sur leur projet, l'idée, c'est qu'on part sur une planche d'inspiration sur Pinterest. Concrètement, je leur dis voilà, vous avez un album commun avec moi, mettez-y toutes les idées qui vous plaît, et après on se pose ensemble et on fait un petit brief. On dit voilà, qu'est-ce qui vous plaît sur telle photo, qu'est-ce qui vous plaît. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir cet entonnoir et de se retrouver à la fin, avoir vraiment une idée, vraiment une inspiration pour leur mariage, vraiment. Je compose avec plein d'idées pour leur faire leur propre mariage. Et après, forcément, je leur apporte des petites touches, je leur dis ça, on pourrait le détourner, on met telle couleur, on met telle matière, on fait ceci, cela. Et moi, l'idée, c'est vraiment d'avoir un produit de base. Je vais prendre un bougeoir tout simple en verre. Moi, l'idée, c'est pas de le laisser tel quel. Ça va être d'ajouter un petit ruban, un petit truc, une valeur ajoutée. Ça peut être le floquer, le mettre au nom des mariés. Ça peut être plein de choses comme ça qui fait que le mariage, il sera vraiment à leur image et on sera pas sur un copier-coller Pinterest. Moi, l'idée, c'est vraiment ça. C'est, je leur dis, voilà, si vous voulez ça, si vous voulez le copier-coller de ça, concrètement, faites-le vous-même. Vous avez déjà tout sous la main. Moi, le but, c'est plutôt de transformer, de dire, on pioche, tac, 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 on compose. Et puis, moi, je vais vraiment ajouter un détail qui fera que ce sera leur mariage et pas celui sur Pinterest. En fait. Donc, et je suis toujours dans cette démarche aussi d'upcycling et de, on va dire, de recyclage et de réutilisation des objets, on va dire. Donc, il se peut que sur différents mariages que j'ai organisés, on retrouve le même bougeoir, mais que je vais avoir retravaillé. Donc, du coup, on le reconnaît pas forcément parce qu'il va être soit recouvert ou alors il va être d'une autre couleur ou il va être bombé. Enfin, voilà, ça va être vraiment tout un travail de modification, si je peux dire ça comme ça, de transformation d'un objet de base en produit fini, du coup.
Et si je comprends bien, tu as un gros boulot alors d'aller chiner les objets, d'aller les customiser. Ça, c'est pas des choses qui sont un peu compliquées à aller chiffrer derrière auprès des mariés. Comment est-ce que tu packages ça dans ta prestation?
Alors moi, de base, en fait, mon forfait décoratio, ça comprend la recherche, l'installation et la désinstallation. Et après, au cas par cas, la déco, c'est étudié forcément en fonction de leurs attentes et en fonction des matières, des choses que je peux avoir sous la main. Donc, soit on loue, soit on achète. Enfin, après, tout ça, c'est étudié au cas par cas. Je ne peux pas leur faire, c'est ce que je dis bien, mes mariés, chaque mariage est différent. Donc, vraiment, en fonction de ce dont ils vont avoir besoin, je vais faire des recherches. Je vais leur dire, moi, vous avez voulu tel bougeoir. Moi, j'ai ça en ma possession, donc ça, je peux le louer. Et après, je leur fais payer la main-d'œuvre et la transformation, le matériel et la transformation.
Mais donc, du coup, tu as des objets que tu proposes aussi à la location, tes propres objets, tes propres bougies.
Oui, j'en ai quelques-uns, mais après, c'est vrai qu'on entasse beaucoup de choses et on se rend compte que, les murs, ils sont pas extensibles. Donc après, moi, l'avantage, c'est que soit je personnalise des objets à moi, on va dire, plutôt simples, facilement transformables, ou après, encore une fois, si on a une idée bien en tête, mais... que je peux pas faire avec ce que j'ai en inventaire, ce que j'ai en stock, je vais aller justement chiner ou après louer aussi. Je passe beaucoup par des professionnels qui louent de la décoration, qu'on va éventuellement ajouter quelque chose dessus. Alors pas forcément floqué ou transformé, parce que forcément, vu que c'est loué, après il faut rendre. Mais l'idée, c'est pas juste on loue et on pose. Non, l'idée, c'est on loue, on transforme un petit peu quand même pour que ce soit personnalisé. Et puis on installe la déco aussi, mais moi, ça me fait pas vibrer d'avoir une décoration entièrement louée et juste à poser. J'ai l'impression d'avoir manqué mes obligations de wedding planner, de dire le but, c'est quand même que je vous apporte la valeur ajoutée et que votre mariage il ressemble pas à celui du voisin, parce que concrètement, si à côté il y a un couple de mariés qui disent c'est bien ce qu'ils louent, on loue la même chose, ça veut dire que à un autre moment, un autre week-end, il y a un couple qui va avoir exactement la même déco. Et moi, du coup, j'ai l'impression de pas avoir mis ma... C'est même pas d'avoir mis ma touche, au final. C'est de leur avoir mis une touche, au final, de dire, vous avez loué tout ça, mais on va ajouter quelque chose. ça peut être juste un changer une couleur à un objet. Enfin, je sais que j'ai des petites lettres qu'on peut, des petits lettrages qu'on peut assembler de manière différente, que ce soit en plantable, enfin, dans différentes manières. Enfin, voilà, ça me dérange pas de les poncer, de les bomber, enfin, de changer, de les mettre de façon différente pour que justement ça soit pas comme les autres, quoi.
Tu vas chiner en ligne un petit peu aussi. Tu vas aussi chiner sur internet ou c'est vraiment uniquement au niveau local aussi?
Non, c'est rare, franchement. Enfin, j'aime bien. Après, l'avantage c'est que maintenant que tout est réouvert, on peut un peu reprendre la vie normale, on va dire. Et du coup, je profite des magasins. Ça m'arrive si vraiment, si je trouve pas mon bonheur en magasin et que, on va dire, l'urgence fait que il faut aller sur internet. Mais comme je suis dans une démarche éco-responsable, moi, je suis plus pour aller dans les magasins à côté de chez moi. Alors après, oui, forcément, si on veut quelque chose de plus original ou plus rare, je vais forcément aller pousser les pages sur internet, mes recherches sur internet. Mais si je peux le faire, en fait, je suis partisane de si je peux le faire sur place, pourquoi aller regarder sur internet, en fait. Et tout mon travail est comme ça, en fait. C'est vraiment pourquoi j'irai chercher un DJ à Paris alors que je n'ai rien contre les DJ de Paris ou de Belgique ou de d'autres départements, mais je sais quand j'ai des prestataires sur place qui travaillent très bien, pourquoi j'irais voir ailleurs. Après, voilà, c'est encore une fois dans ma démarche éco-responsable. Hein. C'est pour vraiment aussi limiter les coûts à mes mariés et avoir aussi cette relation de confiance aussi avec les prestataires. Parce que forcément, si je fais travailler les prestataires locaux, bah, eux vont me recommander. Et voilà, c'est gagnant pour tout le monde, on va dire. Hein. Donc, même pour mes mariés, au final, hein, c'est pas juste entre professionnels que c'est gagnant. C'est aussi pour mes mariés parce que du coup, ils savent que j'ai déjà travaillé avec eux ou eux connaissent mon travail. C'est une question de reconnaissance aussi. C'est de dire, bah voilà, on peut y aller les yeux fermés parce que Manon, elle les connaît, elle a déjà travaillé avec eux et on sait les avantages et inconvénients de chaque prestataire. Et donc, du coup, on compose avec aussi le jour J parce que c'est vrai que bah, d'un prestataire à l'autre, ils ont leur façon de travailler, ils ont une équipe qui fait comme ceci, comme cela. Donc, après, voilà, c'est moi, je jongle entre les deux et on fait en sorte que tout roule, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est un avantage aussi de proposer comme ça des services vraiment extra-locaux parce que du coup, pour les mariés, c'est un gage de confiance. En plus, les mariés, ils apprécient qu'on engage des prestataires sur place. Et puis, comme ça, on est déjà... Il y a le côté rassurant aussi de dire bah, si il y a un inconvénient avec les prestataires sur place, on peut toujours trouver quelqu'un à côté, à proximité. Enfin, voilà, j'ai toujours un numéro sous le coude au cas où. Enfin, on n'est pas à l'abri, voilà, d'un bouchon, d'un accident, on ne sait pas. Enfin, après, je ne souhaite pas de malheur à qui que ce soit, mais faut toujours prévoir les plans B au cas où, quoi. Donc, de travailler en local, ça a ses avantages et c'est... Je sais voir justement cet aspect-là de façon positive parce que du coup, c'est dans mon travail, moi, pour moi, c'est hyper important en fait.
Ouais, t'es pas la seule en plus. C'est vrai qu'on a eu plusieurs invités dans les derniers épisodes où on a parlé d'ailleurs d'éco-responsabilités. Donc, je pense que c'est aussi une vague de fond qui vient forcément aussi sur le domaine du mariage. On va maintenant passer au dernier segment du podcast que tu connais sûrement puisque j'ai cru comprendre que tu étais une auditrice, voilà, une auditrice assidue. Donc, tu dois déjà connaître les questions, il n'y aura pas trop de colle. Et donc, la première que je voulais te poser, c'était si tu devais revenir donc, à ton toi du premier jour. Donc, ton toi du premier jour, c'est quand tu t'es lancé en 2018 en tant que wedding planner et que tu pouvais te donner un conseil à l'oreille, qu'est-ce que tu te dirais?
Reste toi-même parce que vraiment je pense ce qui m'a vraiment, on va dire, mis des freins au début, c'est le fait de vouloir être la copie conforme du couple que j'avais en face de moi, alors qu'aujourd'hui, en étant moi-même, non seulement je suis beaucoup plus à l'aise avec mon discours quand je parle de mes services. Et surtout aussi, comme ça, ils savent qu'en face d'eux, en fait, ils ont vraiment une wedding planner qui est naturelle, qui est spontanée, et ils savent que derrière, je serai pareil, en fait. Et du coup, ça les rassure. Et à l'époque, c'est vrai que c'était pas évident, mais ouais, au début, quand on se lance, je pense qu'on veut essayer de plaire à tout le monde, forcément, pour essayer d'avoir des contrats, et c'est pas la bonne solution. On peut pas être la wedding planner de tout le monde.
C'est ce que tu as dit au début, c'est vrai que je l'avais noté. Le fait que tu avais un petit peu de mal au début de même de transmettre ta valeur ajoutée. Qu'est-ce qui a fait un peu le switch comme ça dans ta tête? Est-ce que c'est le fait d'avoir plus de demandes et d'être plus à l'aise, du coup, pour te dire, bon, bah, maintenant, je vais être moi-même, parce que dans tous les cas, j'ai de la demande, j'ai des clients. Alors que c'est vrai qu'au début, et c'est le réflexe qu'on a tous, hein, quand on se lance, on veut absolument trouver ses premiers clients, donc on a tendance à faire un peu tout ce qu'on peut pour aller signer son et ses premiers contrats. Toi, est-ce que tu te souviens, est-ce qu'il y a un moment ou quelque chose que tu as lu, vu, vécu qui t'a justement fait prendre là ce changement vers un peu plus de spontanéité, plus de naturel?
Moi, en fait, j'ai aussi pris en compte le fait que quand j'avais des rendez-vous avec des mariés, moi, d'emblée, ce qui a fait que j'ai changé un petit peu ma façon de procéder, c'est que les mariés que je rencontrais n'avaient pas forcément une enveloppe très importante, mais avaient ce besoin de wedding planner concrètement. Et parce que moi, vraiment, je me suis tue vraiment au niveau de mes mariés. Je ne suis pas sur du haut de gamme. En fait, on est plutôt sur du moyen, voire, alors attention, pas bas de gamme, mais vraiment petit budget, on va dire. Et donc, du coup, très rapidement, j'ai eu des refus, mais... C'était les mariés, m'appelaient, me disaient, bah Manon, écoute, on a eu un super contact avec toi, mais ça rentre pas dans le budget, donc on est désolés. Ils étaient désolés de pas me prendre. Et on s'est revus après à un salon du mariage peu de temps après. Ils avaient avancé dans leur démarche, donc ils avaient beaucoup avancé dans leurs préparatifs. Et puis moi, en fait, j'avais revu un petit peu ma façon de proposer mes services en me disant, bah voilà, c'est vrai que c'est conséquent, les acomptes, les versements à faire à la wedding planner, enfin à tous les prestataires, et surtout, en l'occurrence, je prends toujours l'exemple du mois avant le mariage où il y a beaucoup de versements de faits, parce que c'est les derniers, enfin c'est le solde de tous les devis. Et je me suis mis un petit peu, j'ai retourné un petit peu la situation en me disant, bah voilà, moi en tant que futur marié, je me dis que voilà, le week-end, la semaine, voire le mois avant le mariage, on a tout à verser. C'est assez conséquent, on a déjà en plus plein de stress qui arrive et tout ça, et du coup je me suis dit, mais pourquoi je proposerais pas un échelonnement? Et depuis que je propose ça, alors attention, je dis pas que je signe tous les contrats que j'envoie, mais avant j'avais plus de refus, et aujourd'hui il y a au final la barrière financière des devis, elle est presque invisible aujourd'hui, parce que l'aspect financier ne rentre presque plus en compte. Alors le devis reste inchangé, le tarif reste le même, mais les mariés en fait me payent 30% d'acompte à la signature et ont du coup le reste du devis qui est échelonné jusqu'au mariage. Donc quand j'ai des mariés qui me contactent 2 ans avant, qui ont une mensualité de 40-50 euros ou voire plus, enfin voilà, c'est dérisoire. Et en fait j'ai des mariés qui viennent me voir au salon du mariage, du coup, pas celui-ci, celui d'après, et qui m'ont dit, mais maintenant on a l'impression de pas payer, mais si, tu me payes quand même. Mais du coup, c'est que c'est géré comme ça. Et ça, en fait, ça a été vraiment plus le ma grosse remise en question, ça a été là-dessus, c'est de me dire, bah voilà, moi ça passe avec les mariés, qu'est-ce qui bloque? Bah concrètement, moi, mon prix, il était hors de question de le changer, parce que je savais ce que j'apportais à mes mariés et la valeur ajoutée que je leur apportais. Mais du coup, je me suis dit, bah voilà, où ça bloque. Et en fin de compte, bah, depuis que je propose ça, j'ai l'impression, pas systématiquement, parce que forcément, après, il y a la concurrence qui rentre en jeu, et c'est bien, parce que du coup, après, forcément, ça nous fait remettre aussi un petit peu en question. Mais depuis que je fais ça, enfin, concrètement, ça leur va bien, ça me va bien, donc c'est parfait, quoi. Après, au niveau de la personnalité, ouais, c'est vraiment plus ça, de me dire... d'avoir vraiment à apporter... le fait que j'ai confiance en moi et de leur dire voilà, je sais, forcément ça peut faire peur aussi en tant que futur marié de dire, bah mince, elle vient de démarrer, comment je peux avoir confiance en elle? Et voilà, juste de leur dire, bah voilà, j'ai fait ça, j'ai fait des shootings d'inspiration, je procède comme ça. Après je suis vraiment dans une démarche hyper transparente. J'arrive avec mon petit classeur et je leur montre un petit peu comment je travaille, comment je fais mon planning le jour J, comment je contacte les prestataires. Et même au niveau de la recherche et l'organisation pure et dure, je leur présente vraiment en fait ma façon de travailler. Je leur dis, bah voilà, je procède comme ça. Je leur montre un petit peu le rétro-planning de l'année aussi, de leur dire, bah voilà, à tel moment je vais faire ça. Je vais aussi vous relancer sur des choses que je peux pas faire, genre les répétitions à l'église par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, enfin vraiment, je suis hyper transparente, que ce soit sur mon travail ou leur tâche à réaliser aussi. Et du coup, ça marche bien, en fait, parce que du coup, c'est vraiment, on est dans un échange hyper facile. Et du coup, c'est très simple au niveau de l'organisation.
Qu'est-ce que tu utilises au quotidien quand tu dois gérer ton activité ? Tu nous as déjà parlé de Pinterest tout à l'heure. Est-ce que tu utilises des outils, des sites, des applications ? En fait, qu'est-ce que tu utilises, toi, le plus sur ton PC ou sur ton mobile quand il s'agit d'organiser le mariage de tes clients ?
Donc, j'ai Facebook, Instagram, j'ai beaucoup mon site internet, du coup. Et j'ai aussi Notion aussi, que j'utilise énormément.
Ouais, Notion.
J'ai eu beaucoup de mal à apprivoiser parce que forcément,
c'est un outil un peu couteau suisse, apparemment. Moi, je commence juste à le tester. C'est vrai qu'il y a beaucoup de potentiel, mais il faut avoir en tête, je pense, comment tu veux l'utiliser avant de l'utiliser. Sinon, tu peux vite partir un peu dans tous les sens. Ouais.
On part d'une feuille blanche et vraiment, c'est un avantage, un inconvénient, parce que c'est vraiment un travail où il faut réfléchir à toute son organisation, tout son travail, tous ces documents, et au final, c'est un travail qui se fait sur plusieurs semaines quand même, même plusieurs mois, parce que je pense que j'y retravaille encore régulièrement, mais au final, j'ai tout centralisé dessus, mais c'est tellement plus simple depuis que j'ai travaillé là-dessus, et c'est pareil, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal, j'ai suivi une formation, pareil, pour pouvoir améliorer mon espace de travail, en fin de compte, et c'est tellement plus simple depuis que j'ai cet outil-là, que...
Parce qu'après, j'ai laissé... Tu t'en sers que pour toi personnellement ou tu partages aussi avec tes mariés certaines choses ?
Oui, bah, les mariés et puis les prestataires aussi.
D'accord.
Donc c'est-à-dire qu'après, en retour de rendez-vous, moi je vais pouvoir remettre un petit peu ce qui a été dit, ou par exemple un pré-devis, je vais pouvoir déjà rentrer les données et on retravaille, on rediscute là-dessus tant que ce n'est pas validé évidemment. Mais voilà, comme ça après tout ce qui est plan de table, le plan de salle, tout ça, moi je le partage avec les mariés. Et on revoit ensemble, comme ça leur fait un petit outil aussi pour eux d'avoir tout centralisé, de pas avoir des feuilles volantes de leur côté, de se dire bah mince, je retrouve plus plein de tables où il est la liste des invités, les adresses, tout ça. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple pour tout le monde, et moi au final ça m'évite aussi de leur redemander régulièrement bah t'en es où, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un travail ensemble, et je trouve que c'est beaucoup plus simple en plus depuis que j'utilise ce truc là donc
ouais, c'est à creuser, c'est vrai. Et en plus, c'est bien parce que c'est un outil, ils ont énormément de contenu, de vidéos, de templates aussi.
Ouais,
tu peux télécharger un template si tu es dans le marketing, si tu es dans les ressources humaines, tu as des templates pour un peu tout. C'est vrai que c'est vraiment bien cet outil. Je le recommande aussi en tout cas.
Ouais.
Tu m'as parlé de formation justement pour Notion. Comment est-ce que tu te formes sinon ? Comment est-ce que tu restes à l'affût des nouvelles tendances dans l'univers du mariage ? Est-ce que tu peux nous recommander des comptes à suivre ?
Oui, je vais te recommander quelqu'un que tu as déjà reçu en podcast, c'est Marie-Michel, que je suis assidûment aussi, et ouais, qui est de très bons conseils aussi. On a bien discuté aussi avec Marie-Michel. Mais après, oui, non, là, je suis une formation, c'est un bundle de formation de tout. En fait, Je suis partisane de voilà, plus on se forme, mieux c'est en fait. Donc régulièrement, je fais des formations, que ce soit par exemple sur comment faire des posts sur Instagram. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement, que je parle pas tant qu'en tant que wedding planner, mais vraiment juste les entrepreneurs de manière générale, il y en a tellement. Pour se démarquer, il faut toujours se réinventer, et ça s'invente pas. Donc du coup, il faut apprendre pour ça. Donc du coup, je fais des formations. Après, j'achète aussi des livres, je bookine, j'apprends plein de choses. Et après, voilà, moi, je suis aussi avide de rencontres. Donc régulièrement, moi, je vais voir de nouveaux prestataires aussi. On fait des échanges, on fait du réseautage. Moi, j'ai été suivie par une association qui aide les créateurs d'entreprises. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Positive Planet, du coup. Positive Planet France, ouais.
On mettra le lien de tout ce qu'on raconte, hein.
D'ailleurs,
on mettra le lien dans l'épisode.
Un gros coucou, mais parce que prochainement, je suis ambassadrice de leur nouvelle formation, donc du coup, c'est super cool. Je me dis, voilà, j'étais au tout début, ils m'ont aidé à créer, et aujourd'hui, je suis ambassadrice de leur nouvelle formation, donc c'est cool. Et c'est vraiment du réseautage, et vraiment, comme en plus, on est vraiment sur une communauté vraiment extra-locale aussi. Je fais travailler des personnes qui ont été créées aussi par cette association. C'est un ensemble d'éléments comme ça qui fait que ça marche bien, quoi. Ça roule, tout ça roule, quoi.
J'ai une dernière question qui va être spécifique pour toi, puisque j'ai vu qu'au mois de mai de l'année prochaine, tu te mariais, toi, avec ton conjoint. Donc, est-ce que le fait d'organiser son propre mariage, est-ce que c'est différent que d'organiser le mariage des autres?
Alors, c'est différent, oui. Parce que je pense que je vais être la pire mariée que je vais avoir rencontrée pour organiser un mariage, parce que je vais avoir un esprit très critique. Et à la fois, en fait, les conseils que je peux donner à mes mariés, j'ai beaucoup de mal à les entendre, en fait, et à les appliquer parce que
Et tu penses à quoi, par exemple, concrètement, comme conseil?
déjà, rien que se poser pour la décoration et de trouver vraiment un terrain d'entente avec mon conjoint. Alors, on est plutôt d'accord sur le thème et tout ça, mais c'est vrai que du coup, de se poser, de trouver voilà, les idées qu'on veut par rapport au mariage, nos attentes, voilà, tout ça en respectant le budget aussi, parce que moi aussi, forcément, j'ai un budget à respecter. Donc, enfin, oui, non, je pense que je vais être la mariée la plus chiante que je vais rencontrer, je pense. Mais bon, après, c'est tout, on compose avec. L'avantage, c'est que moi, je sais comment on organise tout ça, mais je pense à ce qui est le plus difficile au final dans l'organisation de mon propre mariage, c'est de me poser pour l'organiser, en fait.
Ouais,
C'est
c'est
ça,
de prendre le temps de le
c'est de dire,
faire.
ah, j'ai le temps
Voilà.
de le faire. Mais ça file, hein, du coup, donc.
Ouais, bah après, c'est vrai, c'est ce qu'on dit, hein. C'est souvent les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Bon, je pense que tu feras quelque chose de
Exactement.
bien, mais après, c'est vrai qu'il y a il y a la notion de timing quand tu as ta propre activité à côté, et puis le fait de dire que comme tu sais déjà comment ça va se passer, que tu as le temps, etc., etc. C'est vrai que ça doit pas être simple. Hein. Ça doit pas être simple. Je sais pas
C'est
si
ça.
beaucoup l'ont fait, mais est-ce que ça vaudrait pas le coup de prendre des conseils auprès d'un wedding
D'un
planner sur ton propre
wedding planner,
mariage?
je sais pas. Mais on m'a déjà posé la question, genre, bah alors du coup, à ton mariage, tu vas avoir une coordinatrice? Je sais pas, hein, parce que du coup, c'est vrai que moi j'ai envie d'en profiter aussi, forcément.
Oui,
Mais en
c'est vrai
même
qu'il
temps,
y a cette notion-là aussi, quoi. Le fait que toi, tu n'auras peut-être pas le temps d'être
c'est ça,
partout le jour de
mais
ton propre mariage, quoi, c'est pas le but.
est-ce que je vais pas aussi, moi, avoir au final un œil plus critique en me disant, bah, je vais surveiller ce que le ou la wedding planner va être en train de faire le jour J, et je vais vouloir mettre mon grain de sel. Donc, soit il faut que je coordonne vraiment bien et que tout se goupille correctement sans wedding planner, soit effectivement, il va falloir que je fasse appel à un concert, parce que sinon, ça va pas. Enfin, je sais le travail qu'il y a à faire le jour J, et après de donner ces tâches-là à un cousin, une cousine, un témoin ou une demoiselle d'honneur, c'est vrai que c'est une charge de travail. Enfin, c'est pas une charge, c'est pas un service rendu, c'est une charge de travail vraiment. Et j'insiste là-dessus parce que voilà, je sais que la coordination, moi, je sais que je cours partout, donc je ne veux pas infliger ça à quelqu'un de mes invités, en fait. Donc, et ça là-dessus, c'est vrai que pour proposer mes services, je l'explique vraiment bien à mes mariés. Que la coordination, oui, c'est un coût, mais parce qu'il y a ça, 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 quoi. Et ça, c'est vrai que dans la tête des gens, ils se disent, oui, mais c'est énorme, mais oui, mais c'est tout le travail qui a été orchestré pendant 1 an ou 2 ans qui est concentré en une seule journée. Alors imaginez, imaginez la course. Et je prends toujours en exemple, j'ai fait un mariage à mon anniversaire, le jour de mon anniversaire, en juin 2019, le 8 juin. Et je me souviens que ce week-end-là, mais j'ai couru partout. Il y a eu une averse juste après la cérémonie laïque. Il a fallu tout recouvrir, la déco à l'extérieur. Et à la fin de la journée, le dimanche soir, quand je me suis posée, j'ai dit, ah ouais, j'ai marché 30 km quand même. J'ai dit, mais au final, enfin, c'est la folie. Mais du coup, c'était drôle. Du coup, la preuve, c'est un souvenir que je raconte aujourd'hui. Donc,
Ben c'est
mais
du
ouais,
sport,
non,
hein. C'est sûr qu'il faudrait
ouais.
aussi qu'il y ait des préparateurs physiques peut-être pour les wedding planners.
Coach
Métier en
sportif.
devenir, ouais.
C'est ça. Voilà.
Bon, en tout cas, Manon, ça m'a fait super plaisir de t'avoir aujourd'hui sur le podcast, en plus de visu, puisque là on s'est vu en vidéo, c'était très sympa. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains mois, pour les prochaines années?
Bah, c'est me souhaiter et souhaiter aussi aux futurs mariés que on fasse tomber le masque aussi pour les mariages, parce que c'est vrai que c'est vraiment tellement d'actualité encore. Et bon, on est quand même dans une phase, j'espère, positive et que ça va être enfin du passé, la Covid. Mais voilà, c'est vraiment que les mariages reviennent en force, que ce soit pour les wedding planners ou pour les couples concrètement, parce que, enfin voilà, moi j'ai fait mon premier mariage de l'année, là, en mariage à domicile, et ça fait tellement de bien de reprendre. Donc du coup, ouais, vraiment, je souhaite vraiment que ça se fasse dans de bonnes conditions et moins anxiogènes que les mois et les années, enfin, et l'année précédente, quoi.
Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite dans tous les cas. Et puis, bah, dans tous les cas, je te dis peut-être à une prochaine pour un autre épisode du podcast.
Avec
C'était
plaisir.
trop cool de t'avoir. Je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle saison. C'est vrai qu'il va démarrer peut-être un petit peu plus tard là, en 2021. Et puis, plein de bonnes choses pour la suite.
Merci
À
beaucoup.
bientôt, Manon. Salut.
Salut.
C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, aidez-nous à faire connaître le podcast en le partageant autour de vous et en nous mettant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de vous laisser, n'oubliez pas que si vous êtes wedding planner et que vous voulez développer votre activité, foncez vous inscrire gratuitement sur planners.fr. Ciao et à très vite pour un prochain épisode.